France Inter, le 18-20.
L'espace, la dernière frontière, nous sommes les voyageurs du vaisseau, téléphone sonne, appelez-moi Kirk pour les fans de Star Trek. C'est bien dans l'espace que je vous emmène, enfin presque, si on lève un peu la tête en ce moment et qu'on a une bonne vue. Il y a eu tout récemment ce nouveau petit robot qui s'appelle Mascotte en exploration sur un astéroïde à 325 millions de kilomètres de la Terre. Il y a cette sonde et ses deux satellites élaborés par l'Agence spatiale européenne et son homologue japonais. La direction c'est Mercure, la mission d'exploration s'appelle Bepi Colombo. Il y a Inside, la sonde qui va larguer ce qu'on appelle un sismomètre sur Mars. On vous expliquera ce que ça veut dire et à quoi ça sert après 6 mois de voyage. Mais qu'est-ce qu'on a donc à envoyer autant d'appareils dans l'espace en ce moment? Qu'est-ce qu'on cherche? Après quoi on court? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à apprendre de notre système solaire? Pourquoi Mars n'en finit pas d'attirer les curiosités? Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui qu'on ne savait pas faire il y a 30 ans et qui nous intéresse grandement? Qu'est-ce qu'on saura faire dans 30 ans? Est-ce que ces histoires de vols habités dont on nous parle, c'est juste une machine à alimenter nos fantasmes? Ou est-ce que vraiment on finira par mettre les pieds sur une autre planète qui ne sera pas la Lune? Les arguments de prestige comme à l'époque de la guerre froide, est-ce que finalement tout ça, ça tient encore? L'espace, en tout cas, nous fait encore rêver. La preuve, on en fait des films à peu près tous les ans. Gravity, Seul sur Mars, Interstellar, First Man. Qui de vous à moi sont là surtout pour nous prédire ou nous décrire des catastrophes spatiales? Allez, c'est à vous de jouer.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et pour, je ne sais pas si on a Isabelle en ligne, donc pour nous parler ce soir, on a Isabelle en ligne. Bonsoir Isabelle et soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Bienvenue Isabelle, allez-y.
Alors, merci de me donner la parole. Voici ma question. Je voudrais savoir à qui appartient la Lune et comment cela a été décidé. Parce que j'entends parler parfois qu'il y a sur la Lune ou sur Mars des matières premières qu'on pourra exploiter dans un futur plus ou moins proche ou lointain. Et que ces matières premières, voilà, peuvent être intéressantes, utiles pour nous. Mais je voulais savoir comment tout cela sera partagé, à qui ça va appartenir.
Eh ben voilà une belle question, Isabelle, auquel on va répondre et pour discuter tout au long de cette soirée jusqu'à 20h sur nous sur Inter, autour de la table. Francis Rocard est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Et bonsoir Jean-Pierre Bibring.
Bonsoir.
Vous êtes astrophysicien, professeur émérite à l'Institut d'astrophysique spatiale. Vous êtes impliqué notamment dans Mascotte et dans Mars 2020. Et bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
On a bien entendu que vous aviez remis votre micro droit.
C'est ma faute. C'est rouillé.
Spécialiste de toutes ces questions pour nous sur France Inter. La question d'Isabelle, tiens, Francis Rocard. Alors, on ne sait pas effectivement si un jour on ira chercher du matériel sur la Lune ou ailleurs. Et si c'est le cas, est-ce qu'on y a songé? Est-ce que quelqu'un a déjà écrit quelque part, voilà comment ça se passerait si on allait chercher des matières premières sur la Lune ou ailleurs?
Alors, il y a un traité de l'espace qui stipule que personne ne peut s'approprier une planète, la Lune ou autre. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait une faille juridique sur le fait que on puisse s'approprier le minerai supposé intéressant, hein, ce qui reste à démontrer, qu'on exploiterait sur la Lune ou ailleurs. Et d'ailleurs, les Américains ont voté une loi qui fixe un cadre juridique pour cela. C'est-à-dire que pour les Américains, si une start-up américaine va exploiter un minerai sur la Lune, ou ailleurs, astéroïde par exemple, et du point de vue de la loi américaine, ce minerai appartient à la start-up qui l'a exploité. Ça viole le traité de l'espace, ou en tous les cas, ça pose des questions. Mais à mon avis, si effectivement il y a un intérêt à le faire, et là je suis très prudent parce que je suis pas totalement convaincu, les gens exploiteront et s'approprieront ces minerais. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de minerai à exploiter. Enfin, au premier point de vue, il n'y en a pas. C'est
pour
très
l'instant,
compliqué.
Pour l'instant, allez savoir. Alors, en même temps,
Sur la Lune, on sait quand même pas mal de choses. Sur la Lune, il y a des cailloux, des silicates, il n'y a pas de concentration d'un minerai, un terre rare fabuleux sur la Lune. Non, je pense que le terme de ressource, qui est le mot clé qui est utilisé par ces start-up américaines et d'autres, dissimule en fait une chose qui est peut-être beaucoup plus importante pour l'avenir, c'est l'eau. Parce que dans le cadre des missions lointaines, habitées ou autres, on aura besoin d'eau. Et exploiter l'eau, peut-être pas sur la Lune parce que c'est compliqué, mais venant d'astéroïdes hydratés, c'est ça paraît pas complètement impossible. C'est compliqué, mais ça pourrait coûter moins cher que d'apporter l'eau de la Terre.
Voilà. Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Dans le sillage des États-Unis, le Luxembourg a également voté un cadre juridique disant la même chose, que quiconque se rendra sur un astéroïde pourra se déclarer propriétaire des ressources.
Et c'est quand même fascinant. Enfin, ça veut
et
dire
donc
que
les start-up américaines sont aussi désormais installées au Luxembourg.
C'est dans la loi du Luxembourg. C'est, ouais. Ça suppose que le siège soit installé au Luxembourg.
Ouais. Ce qui est fascinant, c'est qu'on y songe, en fait, Jean-Pierre Ubrin, je vous voyais réagir.
Oui, c'est-à-dire qu'on mélange, à mon avis, deux choses à nouveau. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des ressources ailleurs que sur Terre qui pourraient être intéressantes pour telle ou telle industrialisation. Mais ça, c'est déconnecté du fait que cette ressource-là doit être source de profit. C'est encore autre chose. La première chose, est-ce qu'il y a des ressources qui pourraient être intéressantes ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément. Mais il est tout à fait probable que dans l'avenir, on va s'apercevoir qu'il y a des objets, pas forcément sur la Lune, mais sur d'autres petits corps qui ont des minerais qu'on ne retrouverait sur Terre que dans le noyau, qui sont plus faciles à récupérer à la surface d'autres objets. Donc, on ne peut pas dire que dans l'avenir, il n'y aura jamais de mission pour aller récupérer de la matière première, voire même de l'énergie. On pourrait capter l'énergie solaire dans l'espace et la rapatrier sur Terre. Donc, utiliser l'espace pour le bien-être de l'humanité, c'est tout à fait concevable. Mais c'est une autre chose que de dire que cette récupération-là doit être source de profit. C'est la même chose que sur Terre, dans nos affaires à nous. L'argent ne doit pas être le mobile de toute l'exploration, c'est sûr.
Mais qu'est-ce qu'on cherche au fond ? Parce que ce qu'on cherche, c'est pas forcément une ressource exploitable. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on cherche surtout, c'est à comprendre, Francis Rocard, ou est-ce qu'on cherche vraiment de la ressource quand on va explorer, que ce soit une planète ou un astéroïde ?
Attendez, quand on fait des missions automatiques, on fait des missions qui sont scientifiques et l'objectif premier, c'est de comprendre la formation et l'évolution de ces petits corps, comment ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, sachant que tout s'est formé dans le système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Et je dirais, en plus, sur Mars, il y a la problématique de la vie, il y a d'autres endroits dans le système solaire, mais pas sur la Lune. Mais en gros, c'est formation et évolution, c'est ça les deux mots-clés. Après, quand vous avez quand la NASA décide de faire une station spatiale en orbite lunaire, on n'est plus du tout dans un contexte scientifique, là. On est dans un contexte de préparation de l'homme sur Mars. Et après se pose le problème de la ressource qui est l'eau. Et donc on a besoin d'eau. Et où est-ce qu'on va la trouver ? Ça, c'est le point d'interrogation. Peut-être astéroïde, peut-être la Lune.
Sophie, vous voyez réagir ? Non ?
Non,
non ben, pardon, autant pour moi. Jean-Pierre Bubrigue, par exemple, puisque vous êtes impliqué dans Mascotte, sur un astéroïde, qu'est-ce qu'on cherche sur un astéroïde, en fait ? C'est quoi l'intérêt ? Ce que va ramener Mascotte, ça va nous apprendre quoi ?
Voilà, c'est évidemment une superbe question, mais il faut 2 minutes pour y répondre pour la raison suivante. Depuis qu'on a la capacité d'explorer le système solaire, on a la capacité d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Pour l'instant, on ne connaissait que la Terre. Et du jour où l'homme a pu aller voir ailleurs ce qui se passe, on s'est aperçu que ce qui fait l'évolution d'un objet comme la Terre, ce qui fait la diversité qui a été la grande découverte de ça, sont des processus dont on n'avait même pas idée. C'est-à-dire que jusqu'à il y a très peu de temps, l'idée que l'on se faisait de l'espace, de ce que nous sommes, de notre évolution, était basée beaucoup plus sur des dogmes que sur une réalité. Des dogmes parce que on n'avait pas de moyens simplement d'aller voir. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, il n'y a aucune expérience aujourd'hui qui vous dit qu'il y en a, de même d'ailleurs qu'il n'y a aucune expérience qui vous dit qu'il n'y en a pas. Or, si vous demandez aux gens, tout le monde va vous dire qu'il y a de la vie ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, mais dans nos sociétés, qui ne sont pas d'ailleurs toutes les sociétés de la Terre, on a été élevés dans une certaine dogmatique, effectivement, idéologique, qui fait penser une certaine réalité, mais qui ne correspond pas à la vraie réalité. Et maintenant, on peut aller voir ailleurs.
Mais ça que je trouve fascinant, c'est ce qu'on cherche. Aller explorer une planète, je vois à quoi ça peut correspondre. Est-ce qu'on essaye de chercher ? Est-ce qu'il y a de la vie ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Une comète, comme c'était le cas pour Philae, un astéroïde, c'est encore autre chose. Donc en fait, on parle de nous
quand
on va
sur l'astéroïde. Justement, oui, c'est ça. Quand on a commencé à aller voir ailleurs, on a commencé à comprendre que ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, avec ce qu'elle porte, c'est-à-dire la vie, ça ne correspond pas du tout aux idées que l'on pouvait se faire de l'évolution d'un objet. Et donc on a construit une certaine représentation. Qu'est-ce qui fait que la Terre est tellement différente de Mars, de Vénus, etc. ? Qu'est-ce qui fait que la vie est apparue sur Terre et probablement nulle part ailleurs ? Est-ce que la vie a un sens ailleurs ? Et depuis qu'on est capable de voir ailleurs et de se poser de nouvelles questions, on est obligé maintenant de vérifier, de valider, de faire des propositions pour se dire, voilà, si c'est c'est ça, on devrait trouver telle ou telle chose. Et les astéroïdes, pour revenir à votre question, pourquoi ils sont intéressants? Certains d'entre eux, donc celui qu'on a utilisé avec la sonde Hayabusa 2 qui est actuellement en opération, mais c'est la suite de ce qu'on a fait avec Rosetta et Philae. Mmh. C'est de se dire, finalement, le vivant sur Terre, il n'a pas émergé de rien. Vous savez, ce passage de l'inerte au vivant, comme c'était créationniste et que d'un coup, il y a de la chose. Mmh. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a une série d'évolutions qui est partie d'une évolution chimique dans le nuage d'origine et qui se trouve avoir formé des molécules à base de carbone, qui sont pour l'essentiel préservées comme telles dans les comètes et justement dans cet astéroïde. Et en allant voir ce qui se passe là, on a un maillon clé qui nous permet de comprendre comment, à partir de ce matériau-là, mis dans un environnement très particulier qui était celui de la Terre à un moment avec une eau très particulière, des structures vivantes sont apparues. Donc c'est à ça que ces missions essayent de répondre.
Francis Rocard, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a des choses très concrètes, puisqu'on en parlait à l'instant, on parlait de Philae et de sa comète, on peut dire aujourd'hui, voilà, on a le recul nécessaire, deux ans après, c'est ça, dans mes souvenirs, quatre ans, autant pour moi, comme le temps passe, on sait ce qu'on a trouvé et qui attise réellement notre curiosité, qui va nous servir.
Sur Rosetta.
Par exemple.
Sur Rosetta, on a trouvé beaucoup de choses. On a compris le fonctionnement d'une comète, qui était quelque chose d'assez mystérieux. On a compris pourquoi les comètes ont des comportements erratiques. C'est lié à des effondrements de falaises. On a une batterie de molécules qui ont été détectées qui est tout à fait considérable, jusqu'à un acide aminé, la glycine. Par contre, je dirais que ce qui nous a un peu manqué, c'est les comètes, ce sont les objets les plus riches en carbone et les plus riches en eau, je dirais, de l'univers, pour simplifier, en tous les cas du système solaire. Et donc, ce carbone est la grande inconnue. Il y a peut-être 30% de carbone, on ne sait pas très bien, mais c'est un ordre de grandeur. Eh bien, on se rend compte qu'il est probablement extrêmement polymérisé. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas une formule chimique de la formule de carbone, c'est un peu comme de la suie de cheminée, c'est des molécules qui polymérisent à l'infini.
Des chaînes.
Et des chaînes très complexes. On a essayé avec COSIMA un instrument pour essayer d'analyser la composition de ces grains. En gros, on n'a rien pu arracher. Donc en fait, ce sont des molécules gigantesques que donc on a coupé des morceaux CH, CH2, CH3. Et on sait qu'on a affaire à de la matière extrêmement polymérisée. Et cette matière, elle est très primitive. Parce que l'intérêt des comètes, c'est que c'est des objets dont on est à peu près sûr qu'ils n'ont pratiquement pas évolué depuis leur formation. Et donc ce carbone extrêmement complexe, puisque partout où il y a des réactions chimiques organiques, c'est, comme je dis souvent, ce qui est fait n'est plus à faire. Les comètes ont bombardé la Terre, donc ce carbone est probablement arrivé sur Terre. Donc c'est cette matière-là, primitive, qui est encore un peu inconnue, qui, comme l'a dit Jean-Pierre, est arrivée à former le vivant. Donc on aimerait comprendre à partir de quoi ce vivant est formé.
Bonsoir Jean-Loup.
Bonsoir.
Et on vous écoute Jean-Loup.
En fait, voilà, je m'appelle Jean-Loup et j'avais envie de poser une question au niveau de tout ce qui est Mars, de tout ce qui est cette exploration, parce que je me passionne un peu pour l'astronomie. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'était que la sonde InSight, car j'ai entendu récemment dans un Science et Avenir qu'une sonde allait se poser sur Mars pour faire je ne sais plus quoi. Je voulais avoir un peu la réponse d'un professionnel.
Eh ben, on va vous la donner, Jean-Loup, on va te la donner, Jean-Loup, la réponse du professionnel Jean-Pierre Bibring. Qu'est-ce qu'on va bien faire avec Mars? Qu'est-ce qu'on va poser? InSight. Qu'est-ce que c'est que cette sonde? Qu'est-ce que c'est qu'InSight?
Alors, c'est une relativement petite sonde qui va se poser effectivement dans 15 jours à la surface de Mars.
Le 26 novembre.
Le 26 novembre, exactement, qui pour nous, ça sera le 26 novembre au soir, à 9h du soir exactement. Elle est armée de plusieurs instruments, dont un principal, qui est un sismomètre. Un sismomètre, c'est un appareil qui est capable de vérifier s'il y a ou pas des tremblements de terre sur Terre, et qui va essayer de peser les respirations de cette planète, pour essayer pour la première fois de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur même de Mars, jusqu'à des distances assez profondes à l'intérieur de Mars. Mars, on connaît bien sa surface, on a quelques idées de ce qui se passe à l'intérieur, mais le vrai fonctionnement de l'activité de la planète, on ne le connaît pas bien encore, parce que c'est très difficile de percer. On ne voit pas l'intérieur de la Terre. Comment vous voulez savoir ce qui se passe dans la Terre? On utilise justement des sismographes sur Terre aussi pour comprendre. Et toute la structure de la Terre, on la connaît comme cela. On sait qu'il y a un noyau, un manteau. On sait qu'il y a la convection, la tectonique des plaques. Parce qu'on est capable de voir à l'intérieur avec des instruments qui ont justement un moyen d'analyser des ondes qui, elles, se propagent à l'intérieur. Eh bien, il y a des ondes aussi qui se propagent dans Mars, qui sont des ondes sismiques. Et pour la première fois, on va se poser pour analyser ces ondes. Et ce qu'il faut d'ailleurs dire, c'est que le plus bel instrument qui va faire ça, c'est un instrument qui a été fabriqué en France. Et c'est pour ça qu'on est très intéressé aussi, puisque c'est le produit d'une coopération entre la France, un peu de l'Allemagne, mais surtout les États-Unis. Et à partir de 15 jours, 3 semaines, on va commencer à explorer l'intérieur de cette planète.
Sophie ? Et ça n'est quand même pas une mince affaire, puisque cette planète, elle n'est pas facile. Une mission sur deux n'a pas réussi à se poser, Francis Rocard. Donc pour InSight et son sismomètre SAIS, voilà, on a aussi des frissons.
Oui, ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur. C'est-à-dire entre
7 minutes, hein, c'est drôle.
7 minutes entre le moment où la sonde touche l'atmosphère de Mars et le moment où elle se pose. Ça dure 7 minutes. Tout se joue, tout est automatisé. Les opérateurs au Jet Propulsion Laboratory ne font rien, ils ne font que regarder les écrans et des chiffres qui défilent, et ça passe ou ça casse, comme on dit. C'est-à-dire que tout se joue à ce moment-là.
Au sens propre du terme, j'imagine, dans ces
cas-là.
Oui,
oui, c'est compliqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, seuls les Américains ont réussi à se poser sur Mars. Les Russes n'ont pas réussi et l'Europe a échoué également. Donc c'est compliqué. On croise les doigts. On est assez confiant, mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'un pépin. Alors c'est plus compliqué que sur la Lune parce que sur Mars vous avez une atmosphère, donc il faut un bouclier thermique, ensuite vous avez un parachute et puis ensuite des rétrofusées. Sur la Lune, c'est, vous vous souvenez Armstrong, c'est ouais. Juste des rétrofusées. Mm-hmm. Donc vous avez une configuration unique.
Je me souviens Armstrong, oui.
Voilà, vous vous souvenez. Il a pris les commandes parce que ça se passait pas bien. Eh bien, sur Mars, vous avez 3 ou 4 configurations successives, c'est ça complexifie beaucoup la procédure.
Et du coup, Jean-Pierre Bibring, maintenant que donc on sait par quoi est entouré Mars, effectivement, on sait, vous l'avez dit, ce qui se passe en surface de Mars, on va savoir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous restera à apprendre de Mars? Est-ce qu'on pourra dire, alors il y a toujours des choses à apprendre j'imagine, mais est-ce qu'on pourra dire qu'on aura quasiment fait le tour en fait de cette planète qui nous fascine depuis des générations?
Non, parce que tout cela, ça nous donne une idée de ce qu'est Mars aujourd'hui. On étudie Mars aujourd'hui. Mars aujourd'hui est une planète où il se passe pas grand-chose parce que c'est une planète qui a tellement évolué qu'elle est morte géologiquement. Il n'y a pas toute l'activité qu'on a sur la Terre, il n'y a pas de formation de montagnes, etc. En revanche, il n'est pas exclu que dans son passé, Mars a eu une activité qui a permis en particulier à de l'eau d'être stable à l'état liquide, qu'il y a eu des océans, des marécages peut-être. Et ce qui est très intéressant avec cette planète, qui fait son intérêt majeur du point de vue scientifique, c'est que peut-être que il s'est passé sur Mars la même chose que sur Terre, au même moment où ça s'est passé sur Terre, c'est-à-dire cette fameuse émergence dont je parlais tout à l'heure, de l'inerte vers le vivant. Et on ne sait pas sur Terre quand et comment ça s'est passé. On ne sait toujours pas quelle est la succession des étapes qui, du matériau qu'on a trouvé dans la comète à ce que nous sommes, cette évolution a permis cela. Il n'est pas exclu que sur Mars, il y ait eu la même chose, à peu près au même moment. Or, il y a un truc extraordinaire avec Mars, qu'on a découvert nous-mêmes d'ailleurs il y a très peu de temps, c'est que Mars, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, a préservé à la surface des terrains qui n'ont pas du tout évolué depuis qu'ils se sont formés, juste après la formation de la planète elle-même. Sur Terre, à cause de la géologie terrestre, sur tous les autres objets qui ont eu un énorme bombardement, on a perdu la mémoire des premiers moments. Sur Mars, pour des raisons très particulières, c'est ça la contingence, Mars a des terrains qui ont gardé cette mémoire-là. Eh bien, c'est vers ça que toutes les missions qui vont être décidées maintenant, à partir de 2020, puisque tous les 2 ans on peut y aller, on va aller explorer précisément ces sites-là pour savoir, grain par grain quasiment, s'il peut y avoir eu, à un moment donné, une évolution qui a donné naissance à ce qu'on appelle des structures vivantes sur Terre. Ça va être fondamental parce que ça va nous permettre de savoir si ce qui s'est passé sur Terre et dont nous sommes les héritiers est unique dans l'univers, ou si au moins dans notre système, il y a eu quelque chose qui peut y ressembler.
Francis Rocard, et après on retrouvera Bernard au standard.
Oui, depuis plusieurs décennies, le graal de l'exploration de Mars, c'est le retour d'échantillons de Mars. Pourquoi ? Parce que pour la problématique de l'apparition du vivant, comme le dit Jean-Pierre, beaucoup de gens sont convaincus, moi-même c'est mon cas, il n'y a qu'avec des échantillons rapportés de Mars, et les bons échantillons, pas le vulgaire basalte qui est à peu près extrêmement fréquent sur Mars, mais les échantillons de roches altérées par l'eau, par exemple des argiles ou des sulfates hydratés, c'est ce type d'échantillons qu'il faut rapporter. Et cette mission est actuellement en préparation. Elle sera probablement une grande coopération entre l'Europe et les États-Unis, plutôt les États-Unis et l'Europe pour être plus logique. Et on espère que vers la fin des années 2020, nous aurons ces échantillons enfin sur Terre et qu'on pourra statuer sur cette question de la vie sur Mars.
Bernard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est vrai que la vie sur Mars, ça fascine tout le monde, dont vous, Bernard, apparemment.
Bah, oui, enfin, ça m'intéresse, oui. Alors, quand on écoute certains journalistes, on est prêt à y aller dans 48 heures. Alors qu'en réalité, il y a le problème des radiations que vont subir les gens qu'on va envoyer là-bas. Alors, a-t-on un moyen de s'en prémunir actuellement ?
Merci pour cette question, Bernard. Tout le monde l'a, cette question. Et c'est vrai qu'on nous a tous fait fantasmer sur l'idée à un moment. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui ? Concrètement, combien de temps on met pour aller sur Mars ?
6 mois, 6-7 mois.
Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui, très concrètement, de monter dans une fusée et d'aller sur Mars ? Jean-Pierre Livring.
De monter dans une fusée, rien ne vous en empêche. Simplement...
D'arriver et de revenir, par ailleurs.
Voilà. Le problème, c'est que pendant que la Terre fait le tour du Soleil en un an, Mars, parce qu'elle est plus loin, fait le tour en un peu plus de 2 ans. Enfin, à peu près 2 ans. Donc, il faut attendre plus que 2 ans pour que la Terre et Mars soient au plus près. Mmh. En d'autres termes, même si vous mettez que 6 à 10 mois pour arriver sur Mars, il va falloir attendre 1 an sur place avant de revenir sur Terre. Au total, c'est un voyage qui dure plus que 2 ans. Et actuellement, on ne sait pas faire vivre un organisme vivant, humain, pendant plus de 2 ans sans risque. Alors, il y a ce dont parle l'auditeur, à savoir le rayonnement. Et c'est vrai que un des grands problèmes du rayonnement, c'est que ce sont des particules très énergétiques qui traversent d'énormes quantités de matière. Et si on met un blindage qui n'est pas suffisant, c'est l'interaction avec le blindage qui, au contraire, crée des particules qui sont encore plus dangereuses. Il faudrait des blindages de plusieurs mètres d'épaisseur de béton, ce qu'on est très loin de capable. On ne peut pas le faire, évidemment. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, il y a d'autres problèmes qui sont en fait des problèmes purement psychologiques qui font que faire vivre un équipage tout seul, confiné pendant un équipage de 5-6 personnes, pas plus, pendant 2 ans, on ne sait pas le faire. Plusieurs essais ont été tentés et c'est extraordinairement difficile. Donc la vraie question...
Plusieurs essais ont été tentés, mais pas sur la longueur, ou alors je ne sais pas...
C'est toujours dans des conditions un petit peu biaisées, parce que si vous faites un test sur Terre, si ça ne se passe pas bien, vous ouvrez la porte.
Ou la Station Spatiale Internationale, les équipages restent 6 mois, parfois plus.
J'allais vous poser la question, et pardon de la très grande naïveté de ma question, forcément, mais comment on fait pour faire vivre ? Pourquoi on peut faire vivre pendant 6 mois et plus beaucoup de gens successivement sur une station comme l'ISS, et on ne pourrait pas le faire dans une station qui serait proche de Mars.
Parce que vous avez un ravitailleur qui, tous les 3 mois, vous apporte de quoi manger, vous changer, de l'oxygène.
Il y a une autre raison, c'est que l'ISS est à l'intérieur d'une protection magnétique qu'on appelle la magnétosphère, et donc les doses de radiation que vous recevez dans l'ISS sont bien plus faibles, notamment lors des éruptions solaires. Vous savez que s'il y avait une éruption solaire pendant que les astronautes d'Apollo étaient sur la Lune, ils auraient...
Ils étaient morts ?
Ils ne seraient pas morts sur place. Mais au retour, probablement qu'ils auraient eu beaucoup de problèmes, des cancers et autres. Donc, ils ont échappé à ce type de radiation, mais ça a été un petit peu la loterie. En gros, les rayonnements cosmiques galactiques, on ne peut pas s'en prémunir. Et donc ça, c'est statistique. Et par contre, les éruptions solaires, on peut sur alerte. Vous mettez un compteur GGR et une alarme qui sonne. Vous savez qu'il y a une éruption solaire qui arrive. Il y a un module qui est spécialement protégé. Et là, c'est pas 1 mètre de profondeur, d'épaisseur. On peut se protéger avec
ça
des épaisseurs raisonnables.
Ça ressemble à quoi une éruption solaire en soi ? Si c'est comme une grosse explosion, comment on peut décrire ça ?
Vous savez, c'est ces grandes arches qu'on voit autour du Soleil qui, par moment, expulse une grande quantité de matériaux. Et ce matériau se propage à très grande vitesse et ça vous envoie des ions énergétiques qui vous irradient violemment, mais ça dure 24 ou 48 heures. Ça veut dire que l'alarme va durer un jour ou deux, ils vont être confinés derrière un mur spécialement blindé, et puis ensuite ils pourront vivre normalement les 6 mois.
Et puis comme le disait Sophie, Jean-Pierre Bivring, pardonnez-moi, sur l'ISS on peut descendre s'il y a un énorme problème, ce qui n'est évidemment pas le cas, vous venez de nous l'expliquer sur Mars.
Donc la question de notre auditeur qui est intéressante, c'est de... Il y a des problèmes fondamentaux qui font que c'est compliqué d'envisager un voyage sur Mars. Mais on ne le ferait que s'il y avait un intérêt fort. Or, actuellement, de mon point de vue, ce qui manque le plus, c'est l'intérêt d'y aller là-bas. Quand Kennedy a décidé d'aller sur la Lune avec le programme Apollo, c'était pas pour découvrir la Lune. C'était une réponse purement géostratégique. C'était la guerre froide. Il fallait faire le pendant à toutes les premières soviétiques qui ont été jusqu'à Gagarine. Là, si une mission sur Mars, c'est d'augmenter encore les écarts entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas y aller, il faut même lutter contre, je dirais. Il n'y aura de mission habitée vers Mars que c'est une mission de la planète Terre, quelque part, globalement. Et il faut qu'il y ait un enjeu important. Et il pourrait y avoir un enjeu scientifique important si, d'ici là, les explorations robotiques montrent que, par exemple, de la vie a pu démarrer sur Terre, sur Mars, voire même est encore en mode dormant quelque part ou en mode activité. C'est très peu probable, mais c'est justement ça que l'on fait actuellement, c'est de cartographier au maximum cette planète pour savoir s'il a pu y avoir ou pas l'apparition d'êtres vivants. Si c'est le cas, ça pourrait éventuellement justifier d'augmenter notre capacité à aller sur Mars.
Francis Rocard qui fait non avec son doigt.
partage pas tout à fait ce point de vue. Je crois que c'est pas la science qui est le moteur de l'exploration habitée de Mars. C'est une volonté politique des Américains. Point. Les Américains en ont fait leur nouvelle frontière pour le 21e siècle, au même titre que ça a été la nouvelle frontière pour le 20e siècle, Kennedy. C'était les hommes sur la Lune, ouais. Kennedy. Là, c'est décidé, c'est-à-dire que c'est décidé au sens, le principe de se dire que vers le milieu de ce siècle, les Américains enverront des hommes sur Mars, il y a un consensus du Congrès, de la Maison-Blanche, et même de Trump, et de la NASA. Donc le problème c'est comment on y va, c'est très compliqué, ça va mettre 30 ou 40 ans, et c'est pas la science qui est le moteur du tout. D'abord parce que la problématique scientifique sera réglée avant, le retour de l'échantillon.
Et alors justement, je voudrais enchaîner avec cette question d'Elisabeth sur franceinter.fr qui nous dit « Toutes ces fusées, ces satellites, ces sondes, moi je suis très inquiète car elles ne sont pas biodégradables. La pollution de ces technologies est-elle prise en compte ?» On a aussi une question sur l'énergie que ça consomme en fait. Autant de questions qu'on se pose aujourd'hui, qu'on ne se posait pas au moment de la conquête spatiale de Kennedy. Est-ce qu'on y songe à ces préoccupations qui sont des préoccupations très 21e siècle et est-ce qu'elles peuvent faire reculer certaines échéances ou pas?
Oui, enfin, attendez, on se préoccupe beaucoup d'une pollution particulière qui est la pollution biologique. Donc, on fait en sorte d'être totalement stérile quand on va sur Mars pour pas apporter nos propres bactéries qui pourraient proliférer. Ça, c'est tellement contraignant que ça induit des surcoûts de 10, 20, 30% sur les missions. Il faut par exemple une triple enveloppe sur le conteneur qui contiendra l'échantillon et si les trois enveloppes ne sont pas hermétiquement fermées, la mission est annulée. Donc ça va très très loin. Et par contre, du point de vue de la pollution chimique, on n'est pas trop regardant, d'abord parce que quantitativement, on pollue très très peu. On a envoyé 6 sondes sur la surface de Mars au sol, qui ont réussi. C'est très peu par rapport à la surface de la planète. Donc là, on a moins de problèmes. Il n'y a pas tellement d'ergol dans ces sondes, il n'y a pas de pollution chimique. C'est vrai qu'une fusée qui part, c'est de l'hydrazine qui est très polluante.
C'est pas tant la pollution ailleurs, c'est celle qu'on provoque aussi ici, lorsqu'on fait partir ce genre de fusées, lorsqu'on les construit, etc.
Oui, il y a des réflexions de savoir si on ne pourrait pas avoir des propres ergols, ce qu'on appelle les propres ergols, c'est-à-dire les éléments qui font fonctionner la fusée, qui soient moins polluants. C'est pas si simple que ça parce qu'on a besoin aussi de l'énergie de la réaction chimique pour envoyer la fusée.
Sophie, l'auditrice apparemment signale les satellites. C'est aussi un autre problème qu'on appelle effectivement la pollution spatiale, le nombre de satellites qu'on envoie.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Gravity.
Voilà. Donc il y a pas mal de projets qui réfléchissent aux moyens de les faire revenir sur Terre, des aspirateurs à satellites, des harpons qui les feraient redescendre sur Terre, voire des véhicules qui iraient les chercher avec une espèce de poignée pour les faire redescendre. Donc c'est une réflexion qui est en cours et ça avance
alors,
plutôt bien.
C'est pas si simple que ça, parce que si vous envoyez une mission qui coûte 500 millions de dollars pour enlever 2 satellites, c'est pas rentable du tout. Et on le fera jamais. Parce que des débris, vous en avez 10 000. Donc c'est pas en deux que vous résolvez le problème. Donc c'est un peu compliqué.
Jean-Pierre Bibringuet, on retourne au standard, allez-y.
Oui, bon, cette question de rentabilité, enfin, je suis évidemment pas d'accord avec cette approche-là, mais je crois que cette question est importante quelque part, de savoir si cette histoire de pollution ou pas. Bien sûr que quand on envoie quelque chose, il y a toujours le risque que ça retombe. Petit 1, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les systèmes sont prévus pour que quand ils retombent, ils se détruisent dans l'atmosphère, c'est de la poussière qui retombe, et la somme intégrée de cette poussière est ridicule, dans la mesure, il y a eu quelques cas où il y a eu quelques objets un peu plus gros qui sont tombés.
Oui, il y en a quand même. Et puis ça retombe dans l'océan, c'est une forme de pollution.
Ça a beaucoup pollué. Oui.
Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important de discuter de ça en relation avec le positif de l'exploration spatiale qu'on n'a finalement pas abordé aujourd'hui. Certes, il y a un coût à cette exploration dont on parle là, mais qui me semble est mineur comparé à ce que cette exploration nous apporte. On ne prend pas la mesure de ce que l'exploration spatiale a apporté, bien au-delà de la connaissance propre qui intéresse les scientifiques. Les scientifiques, bien sûr, sont intéressés par la connaissance en soi. Mais comprendre ce qu'est l'origine et l'évolution de notre propre planète, notre destin, resituer la Terre, cette exploration-là bouscule de tels forts paradigmes que ça irrigue des champs de l'activité humaine bien au-delà de l'intérêt scientifique. Et on ne prend pas compte du fait que l'essentiel des grandes questions sociales maintenant se pose en relation à la nouvelle vision que l'on a de la place de la Terre dans l'univers et de ce qu'elle représente. Tout ce qu'on dit sur la mondialisation, tout ce qu'on dit sur le changement climatique global, tout ce qu'on dit sur le fait qu'il faudra que l'homme continue à s'habituer à vivre sur Terre parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, tout ça c'est directement lié à cette exploration-là.
Florian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Florian dans le téléphone sonne.
Merci à vous. J'avais une question, alors plutôt pour revenir sur la planète Mars, mais plutôt pour les auditeurs, je voulais avoir leur point de vue sur la crédibilité de la société SpaceX, qui a quand même un peu chamboulé, je dirais, le paysage spatial, en tout cas pour donner un peu d'accès à l'espace, et avoir leur point de vue sur la crédibilité de cette société à avoir des ambitions quand même d'aller sur Mars à court terme, donc à échéance, je dirais peut-être 6-8 ans, quoi.
Merci beaucoup pour cette question, Florian. Francis Rocard, il vous intrigue, il vous agace, il vous intéresse Elon Musk ou pas?
Alors, ce qui est sûr, c'est que on l'observe et ce que l'on voit, c'est que son Falcon 9 est une espèce de révolution dans les lancements mondiaux.
Parce qu'il y a un retour.
Pas seulement. Parce qu'il a baissé beaucoup les coûts. Mmh. Et donc, alors que c'était une prédiction à la fin du programme Apollo de dire, bien évidemment, les coûts de lancement vont baisser, 40 ans plus tard, c'était pas vrai. Mmh. Et là, avec Elon Musk, tout d'un coup, ça baisse. Et ça a eu une première conséquence, c'est Ariane 6. Ariane 6 est directement la conséquence du Falcon 9, c'est-à-dire que...
Qui, rappelons-le, est la fusée qui remplacera Ariane 5 en 2020.
Voilà. Et pourquoi? Parce que sinon Ariane 5 aurait été totalement dépassé, tous les clients allaient chez Falcon 9 et Ariane 5 aurait été en faillite, donc Ariane Espace. Donc, de ce point de vue-là, Elon Musk est très sérieux, efficace,
Il nous a secoué visiblement, en fait.
Il a secoué tout le monde.
Il a secoué tout le monde. Il nous dit qu'elle nous amènera sur Mars.
Alors le BFR, le Big Falcon Rocket, pardon. Ça, c'est déjà le. Je pense que sur le long terme, très honnêtement, je pense que Monsieur Elon Musk bluffe. Ouais. Bluffe au sens où il espère. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi SpaceX a fonctionné, parce que la NASA a compris que SpaceX était intéressant pour elle. Mmh. Donc la NASA a investi d'abord 500 millions de dollars en disant « faites-moi des études ». Elle trouvait que c'était percutant. Et depuis, SpaceX a touché 7 milliards de dollars de la NASA. Mmh. Donc, il n'y aurait pas eu ça, SpaceX était mort. Donc, la question c'est est-ce que la NASA va faire la même chose pour le BFR ou pas? Le problème c'est que la NASA a déjà un lanceur qui lui coûte extrêmement cher, qui s'appelle le Space Launch System, qui est la future Saturne V. Je vous rappelle que c'était la fusée d'Apollo. Donc cette énorme fusée, elle est en cours de préparation. Elle va voler bientôt. Donc quel est l'intérêt de la NASA d'avoir une deuxième fusée gigantesque qui va coûter des milliards? C'est pas du tout évident.
Jean-Pierre Bébring, vous qui, j'allais dire, qui connaissez Mars, c'est du bluff Elon Musk ou pas?
Il y a bien sûr une part de bluff, mais si vous me permettez, c'est normal que l'on parle effectivement pour l'accès à l'espace, pour aller là-bas, vers les conflits, la compétition et une politique de marché qu'il y a derrière cela. Et ce que dit Francis est évidemment vrai, c'est-à-dire qu'Elon Musk, essentiellement, la raison pour laquelle il a fait des choses, c'est qu'il a été fortement subventionné pour essayer de faire plier l'industrie spatiale européenne. Mais il y a quelque chose à l'inverse que je voudrais dire, qui me semble plus important quand même dans cette affaire, c'est que l'exploration spatiale, elle est aussi capable justement de s'émanciper de cette querelle de marché, de compétition que l'on retrouve dans le spatial comme on retrouve ailleurs. Dans l'exploration spatiale, on fait au contraire la démonstration de tout à fait autre chose. C'est qu'on est capable de travailler avec des gens sans aucun retour sur investissement, avec des gens avec qui on dirait qu'il ne faut pas travailler. On travaille avec des Chinois, on travaille avec des Japonais, on travaille avec des Indiens, on travaille avec des Brésiliens. On travaille à une échelle qui, de mon point de vue, est exemplaire précisément des relations qu'il faudra tisser par rapport aux enjeux de ce siècle pour s'en sortir. Et je crois que c'est peut-être des atouts majeurs de l'exploration spatiale, scientifique au sens large, mais spatiale en particulier, de montrer qu'on peut avoir des relations entre les gens qui dépassent les conflits intérêts auxquels la politique des marchés actuels nous oblige de penser, et qui sera, quand je dis exemplaire, c'est vraiment ça. Il y a des enjeux incroyables dans ce siècle. On ne sait pas si on s'en sortira sur les problèmes climatiques. On ne sait pas si on s'en sortira sur les problèmes d'inégalité qu'on a tissés depuis deux siècles, depuis l'esclavage, le colonialisme, les empires. Il faudra dépasser tout ça. L'exploration spatiale nous dit que c'est possible. Mais il faudra changer le type de relation. Dans notre pratique, voyez, vous parliez de la sonde Hayabusa. C'est une coopération qu'on fait avec les Japonais, et qui est la première d'une série, j'espère, que l'on va faire faire parce qu'on commence à avoir une confiance mutuelle qui va nous permettre de le faire. Les Chinois, pareil, les Chinois ont un programme spatial extrêmement ambitieux. Ils sont en train de l'ouvrir. Il faut se mettre là-dessus. Et quand j'entends encore, sur France Inter encore ce matin, qu'on parle de fabriquer une armée européenne, ce n'est pas par la force qu'on gagnera par rapport aux enjeux. C'est pas en construisant des armées, en s'intégrant c'est pas par la force qu'on gagnera. C'est par des relations internationales que précisément l'exploration spatiale planétaire est en train de démontrer la validité.
Mais donc vous êtes en train de nous décrire une espèce d'anti-guerre froide, mais au fond ça veut dire que les motifs et les motivations sont exactement les mêmes que celles au moment de marcher sur la Lune, si au fond ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir collaborer avec des pays avec lesquels d'emblée
absolument,
on ne collaborerait pas.
Je pense que c'est tout à fait fondamental et c'est le grand succès de la coopération internationale de ce point de vue-là, c'est la coopération qui remplacera la guerre. Elle est justement due au fait qu'en France en particulier, on ne sait pas faire des lanceurs pour aller sur Mars, on ne sait pas faire des satellites pour aller sur Mars, mais on sait faire des instruments que personne d'autre ne sait faire. Et bien dans un contexte de coopération, on peut valoriser cela en travaillant justement avec des gens qui vont nous amener et on va mettre ensemble une intelligence collective.
L'Agence spatiale mondiale n'est tout de même pas encore née.
Non, mais la coopération internationale est très très proche de l'être à mon avis. Et il faut aller dans cette direction-là et il faut refuser les traités justement qui essayent de prendre justement une suprématie. Par exemple, comme les États-Unis, où il était dit tout à l'heure, veulent être tout seuls pour faire un retour d'échantillons martiens avec peut-être des Européens. Il faut combattre cela. Il faut combattre l'idée que certains iront un jour sur Mars en oubliant que la planète Terre, ce n'est pas que ceux qui ont la capacité technologique d'y aller. La coopération, c'est pas que technique pour technique.
Voilà, donc l'espace, une zone à défendre, la ZAD de l'espace. Je voudrais qu'on écoute Miles pour terminer. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, Miles, on t'écoute.
Merci. Alors, ma question serait, est-ce qu'il y a une calotte glaciaire dans, voire sous la croûte de Mars, et s'il y a des bactéries qui pourraient y vivre?
Merci pour cette question, Miles. Jean-Pierre Bubring, est-ce qu'on sait ça? Alors, ou est-ce qu'on va le savoir?
Non, il y a de la glace à la surface de Mars. Et en fait, plus on descend dans Mars, plus la température et la pression augmentent. Et en fait, la glace disparaît, c'est le liquide qui apparaît. Donc effectivement, sous les calottes polaires martiennes, il y a de l'eau liquide. Est-ce qu'il y a des bactéries dedans? Bon, bien sûr, on ne connaît pas la réponse. Est-ce qu'il y a une probabilité importante qu'il y en ait? Vraisemblablement pas, parce que les calottes sont formées récemment, elles ont évolué beaucoup, et il n'y a pas les ingrédients, les nutriments qu'il faudrait pour entretenir tout cela. Ça ne veut pas dire pour autant que si la vie a démarré il y a très longtemps sur Mars, qu'il n'y a pas encore des spores qui existent dans des endroits particuliers, et c'est ça tout l'enjeu maintenant. Identifier la capacité que Mars a eue d'abriter des conditions favorables à l'émergence du vivant, qui aurait pu ensuite se réfugier dans des endroits, pas forcément l'eau subglaciaire, mais ça peut être des roches, et éventuellement ensuite aller les rechercher, les rapporter sur Terre.
Francis Rocard, juste une dernière question, moi ce qui me frappe, on parlait justement de quelle est la motivation pour aller dans l'espace ou sur les planètes, ce qui me frappe c'est que sur 10 questions, il y en a 9 qui touchent à la planète Mars. Est-ce qu'à un moment cette curiosité-là, cette fascination que tout le monde a, elle dicte aussi un certain nombre de projets, on se dit on va l'accepter, et même si ça coûte de l'argent il y aura de l'opinion publique pour ça, il y aura un vrai intérêt parce que c'est la planète Mars. Ça compte ou pas?
Oui, ça compte. Juste un exemple, il y a 20-30 ans, l'exobiologie, c'était à la recherche de la vie à l'extérieur de la Terre, était un sujet qui faisait sourire, qui n'était pas pris au sérieux. Aujourd'hui, encore une fois, par la position américaine, mais qui a été reprise dans le monde entier, c'est le cœur de l'exploration, notamment avec Mars. Et donc la recherche de la vie, que ce soit sur Mars, sur Europe, sur Encelade, il va y avoir des missions sur Europa, satellite de Jupiter, et donc ça devient le moteur de l'exploration. Oui.
Allez, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir exploré le système solaire et les planètes avec nous ce soir au téléphone sonne. Merci à tous les deux, merci pour vos questions et portez-vous bien.